Non, j'ai déjà fait, mais.
Bonjour à tous, ça va bien?
Oui.
Olivier nous a fait un chant qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, ça nous a fait. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Avant de commencer, nous avons prié pour une amie de Marie-Claire qui est dans la souffrance. Elle s'appelle Pascal et nous voulons prier pour elle. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu es celui qui sauve et qui guérit. Je te demande, mon Dieu, de pardonner les péchés de cette dame parce que nous avons tous commis des péchés. Je te demande de la pardonner et de lui accorder ta guérison. Je te demande, mon Dieu, de toucher ses yeux afin que quelque chose de miraculeux se produise et qu'elle puisse être guérie. Dans le nom de Jésus, je chasse ce mal et que sa vision redevienne tout à fait correcte. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Vous croyez ça?
Amen.
Oui, moi aussi. J'ai vu tellement de choses comme ça arriver. Tellement de miracles. Tellement de bénédictions. Vendredi soir, je vous ai parlé de ce que Jésus appelait l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Il ne prêchait pas l'évangile du salut, puisqu'il n'avait pas donné sa vie sur la croix, il n'était pas encore ressuscité, il n'était pas encore monté au ciel, il ne parlait pas de ça, mais il parlait de la bonne nouvelle du royaume. Et je vais revenir là-dessus ce matin, parce que c'est une chose que peu de gens réalisent, ou connaissent, ou même peu de gens y ont pensé. Le message de Jésus concernait une famille divine ou des familles divines gouvernant sur la terre. La croyance admise par les chrétiens est qu'ils auront une paisible retraite éternelle dans les cieux. On va lire Zacharie 14, verset 14, le chapitre 14, verset 9, où il est dit « Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté est. Le mont des Oliviers se fondra par le milieu, d'est en ouest, une grande vallée se formera. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, une moitié vers le sud, etc. 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 » Jésus va revenir. Ça, on le sait. On sait qu'avant, il y aura un antichrist qui doit se manifester, qui va régner pendant à peu près 3 ans. Et puis ensuite, Jésus va revenir, il posera ses pieds. C'est-à-dire que quand il est monté au ciel, il a dit, des anges sont venus et ils ont dit aux apôtres, il reviendra comme il est parti. C'est-à-dire, il viendra du ciel. Il naîtra pas d'une femme. Il viendra du ciel. Alors nous savons que lorsque Jésus est venu sur la terre, il était l'image du Dieu vivant. On trouve ça dans plein d'autres textes, dont Colossiens 1,15 qui dit que Jésus-Christ était l'image du Dieu vivant. Il était le Dieu vivant dans une image, l'image humaine. Hein. Et donc, c'est lui qui régnera sur cette terre, c'est-à-dire c'est Dieu qui régnera sur cette terre, mais pas lui tout seul. Pas lui tout seul. On va lire Apocalypse 19, 16, si vous voulez bien. Apocalypse 19, 16. Voilà ce qui est dit. Donc, quand il reviendra, il dirigera avec un sceptre de fer, il écrasera lui-même le raisin dans la cuve de l'ardente, la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Alors, quand Jean l'a vu, il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Là, il nous est dit que Jésus sera le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais qui sont ces rois et qui sont ces seigneurs sur lesquels Jésus sera roi et seigneur? Eh bien, c'est toujours dans les Écritures que nous devons d'abord la sonder, et puis alors nous trouvons des réponses. On va lire dans Ézéchiel, chapitre 34, Ézéchiel 34, 23, voilà ce qui est dit. Je vais mettre à leur tête un seul berger, il prendra soin d'elle, mon serviteur David, c'est lui qui prendra soin d'elles et qui sera un berger pour elles. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elles. C'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. Est-ce que vous aviez déjà pensé... Est-ce que vous aviez déjà pensé ça? Maintenant, un jour, les disciples de Jésus ont demandé qu'est-ce qu'ils avaient à gagner à le suivre. Et alors, voilà la réponse que Jésus leur a donnée. On trouve ça dans Matthieu, chapitre 19, verset 27. Il leur a dit, Pierre prit alors la parole et dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, que se passera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, vous voyez qu'il va y avoir un renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alors, dans Matthieu 19-27, voilà ce qui est dit. Nous avons Jésus qui sera le roi sur toute la terre. Il y aura David qui sera le roi ou le prince sur tout Israël. Et les 12 apôtres qui dirigeront les 12 tribus d'Israël. Et qu'en sera-t-il de nous? De vous et de moi? Qu'en sera-t-il de vous et de moi? Est-ce que le message de Jésus était de bien vivre ici-bas, d'être gentil, d'être poli, de payer ses impôts, de donner sa dîme à l'église, et puis de mourir, et puis de prendre une bonne retraite au ciel? Non. Non. Souvenez-vous de la parabole des mines. Jésus dit qu'il s'en va et il donne des responsabilités à ses serviteurs en attendant son retour. Et il dit que quand il reviendra, il donnera des récompenses en fonction de leur rendement. On va lire Luc chapitre 19, Luc 19, 16. Le premier se présenta et dit, Seigneur, ta pièce d'or, donc ce qu'il lui avait confié, sa mine, a rapporté, le premier se présenta et dit, Seigneur, la pièce d'or en a rapporté 10. Il lui dit, c'est bien un bon serviteur, parce que tu étais fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. Le deuxième vint et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. Il lui dit, toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. Ça ressemble pas à une retraite assise sur un nuage dans le ciel, ou ça ne correspond pas à une idée où on regarde la face de Dieu dans une espèce de transe céleste, pour l'éternité, sans rien à faire. On va reprendre Matthieu 19, qu'on a laissé tout à l'heure, Matthieu 19, et on va lire le verset 20. Alors, vous vous rappelez, je vous avais dit... est-ce que c'est ça? Un autre vint et dit, Seigneur, voici la pièce d'or que tu as gardée, que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Donc, vous voyez, c'est pas à lui de semer, c'est à nous, hein. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je retire un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Il lui dit, Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Dans certaines versions, c'est écrit, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et qu'on les mette à mort devant moi. Terrible, n'est-ce pas? Et il y a un autre texte que je voulais vous lire aussi, mais je ne le trouve plus. On y reviendra tout à l'heure. Il est dit que nous qui avons tout quitté, nous recevons ceux qui auront quitté pour le Seigneur Jésus, leur père, leur mère, leurs enfants, leur maison, leur terre, recevront tout au centuple, et puis avec des persécutions, et pour fin la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que nous aurons, nous? Alors, on a vu qu'il y aura David comme roi, on a vu qu'il y aura les 12 apôtres comme juge sur Israël, on a vu que ceux qui auront été vraiment fidèles, ils auront des responsabilités sur 10 villes ou sur 5 villes, et puis d'autres auront des maisons, une immense famille, des terres. Quand? Eh bien, déjà ici-bas, on voit que quand on est fidèle, on est béni, déjà, maintenant, ici-bas. Sur la nouvelle terre que Dieu va créer, sur la nouvelle terre, eh bien, ça sera différent encore. Là, nous aurons une famille immense, puisqu'on va retrouver les nôtres pour lesquels nous nous serons fait baptiser. Et la nouvelle terre sera la demeure éternelle des croyants. Ce sera, ça sera ça le nouveau ciel où nous vivrons. C'est ça, c'est là que se trouvera la nouvelle Jérusalem. Et nous y habiterons avec un corps glorifié. En Corinthiens 15, 38 nous dit que nous y vivrons chacun selon notre rang. Tout le monde ne sera pas à la même enseigne. Alors je vous lis, en Corinthiens 15, 39, qu'est-ce qu'il est dit là? Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, il y a les anges par exemple, et des corps terrestres comme le nôtre. Mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Et chaque étoile diffère même en éclat d'une étoile à l'autre. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscitera incorruptible. Il est méprisable, il ressuscitera glorieux. Il est semé faible, mais il ressuscitera plein de force. Il est semé corps naturel, mais il ressuscitera corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y aura aussi un corps spirituel. Voilà. Donc, ça sera chacun en son rang. Il y en a qui brilleront comme le soleil, d'autres qui brilleront comme la lune, d'autres qui brilleront comme les étoiles. Ça, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà enseigné. Le nouveau ciel, la nouvelle terre sera un univers bien physique. Et nous aurons des corps glorieux, mais nous ne vivrons pas sur des nuages comme des espèces d'esprits flottants. Dieu sera avec nous dans la Nouvelle Jérusalem. On trouve ça dans Apocalypse 21, verset 3. Il est dit là, « J'entendis une voix forte venant du ciel, il disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. La nouvelle terre sera immense. Déjà la nôtre est pas mal, mais la nouvelle terre sera immense. Et la nouvelle Jérusalem sera immense aussi. Elle mesure, d'après ce que la Bible dit, la nouvelle Jérusalem, 2200 km de long, 2200 km de large et 2200 km de haut. c'est un cube. Il y en a qui disent que c'est une pyramide. Non, c'est un cube. Parce que sinon, il ne serait pas question de largeur, hauteur et longueur. C'est un cube qui est décrit là. Enfin, peu importe. En dehors de la Nouvelle Jérusalem, qui sera sur cette immense terre, eh bien, il y aura des nations. Et chaque nation aura son roi. Et chacun de ces rois apportera sa gloire dans la Nouvelle Jérusalem, et il n'entrera que ceux qui, dont le nom est écrit dans le livre de vie. On peut lire ça dans Apocalypse 21, je vous le lis, ça vaut la peine de savoir. Jésus prêchait, voilà, le royaume de Dieu s'est approché, et puis il annonçait le royaume de Dieu. Et voilà, maintenant, ben, on sait ce que c'est le royaume de Dieu, puisque nous avons les Écritures qui nous le disent. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Donc tout ce que vous voyez là, c'est terminé. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, parée comme une mariée qui s'était faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes ». Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toute chose nouvelle ». Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance, c'est vrai ». Puis il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre. C'est la seconde mort, bon débarras. Dieu veut pas de cette sorte de personnes dans son royaume. Il nous a assez avertis, il l'a assez dit, les gens en ont assez ri, un jour ça deviendra une réalité et puis c'est tout. Il ne faut pas dire que Dieu n'est pas gentil, il est gentil, il nous avertit. Mais si on ne veut pas écouter ce qu'il dit, ben voilà, c'est tout. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit « Viens, je vais te montrer la femme, l'épouse de l'agneau ». Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu, son éclat ressemblait à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes, et à ces 12 portes, 12 anges, des noms qui y étaient inscrits. Ceux des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes au nord, 3 portes au sud, 3 portes à l'ouest. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait une forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 km. Sa longueur, sa largeur, sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille et trouva 72 mètres selon la mesure humaine qu'employait l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de coralline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaz, la dixième de chrysotopaz, la onzième de hyacinthe, la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était faite d'une seule perle, la place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas le temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu éclaire, l'éclair et l'agneau et son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière. Vous voyez qu'il y a des nations qui marchent à la lumière de cette nouvelle Jérusalem qui est sur la terre. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est un peu long, mais je pense que c'est bien qu'on le dise, qu'on le lise. Il y en a qui disent « je ne lis pas l'Apocalypse, ça me fait peur ». Moi, ça ne me fait pas peur. C'est un livre de révélation, la révélation de qui est Jésus et de ce qu'il veut faire. Alors, les seigneurs de la Nouvelle Jérusalem sont ceux qui brillent comme le soleil. C'est l'épouse de Christ. L'ange dit « viens, je vais te montrer l'épouse de l'agneau » et il lui montre la Nouvelle Jérusalem. Alors, ça, c'est ceux qui brillent comme le soleil. Les habitants des nations seront les chrétiens qui brilleront comme la lune et qui auront des responsabilités sur la gestion des villes des nations. Hein, ceux qui auront été fidèles dans ce qu'on leur a donné, ils ont fait travailler, ils ont fait valoir ce qu'ils avaient reçu, et puis, bon, ils n'ont pas tous été formidables, mais ils ont, alors il y en a qui auront 10 villes, il y en a qui ont 5 villes, etc. Et souvenez-vous de la parole des mines, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Et les personnes soumises au Seigneur des Nations, parce qu'il y aura des personnes soumises au Seigneur des Nations, et puis au chef de ville, eh bien ce seront les chrétiens qui brillent comme les étoiles et qui n'auront pas fait grand-chose de leur vivant sur la terre à part poser leur dernière au culte et puis éventuellement donner la dîme et puis prier un petit coup par-ci par-là. On va lire 1 Corinthiens 15, 39, 42. Le corps est semé corruptible, il est ressuscité incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé faible, il ressuscite plein de force, il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Là, c'est pas tout à fait ça, c'est 39, 42, oui, mais on l'a déjà lu, hein. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles, chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts, c'est-à-dire que on ressuscite pas tous avec le même éclat, ça dépendra de ce qu'on aura fait ici. Je ne veux pas vous faire peur, mais il y en a même qui seront sauvés comme au travers du feu, il y en a même qui recevront des coups, parce que, voilà, ils auront été pas seulement inactifs, mais un peu escrocs sur les bords, hein, je pense, quelque chose dans ce goût-là. Alors, ce que Paul appelle l'éclat des corps célestes, c'est l'éclat de l'épouse qui vivra dans la Nouvelle Jérusalem, qui sera la Nouvelle Jérusalem. Cela, c'est la Nouvelle Terre, c'est les Nouveaux Cieux, c'est la Nouvelle Jérusalem, ça sera le Royaume de Dieu, et pour le moment, Jésus dit, le Royaume de Dieu s'est approché. Vous vous rappelez, dans Luc 10, 9, Jésus disait, partout il allait, il disait, le royaume de Dieu s'est approché, c'est-à-dire que le roi lui-même est venu, et il n'a pas reçu, mais il est venu. Et ensuite, il a envoyé des disciples, ils ont tout presque été tous massacrés, ils n'ont pas reçu non plus. Quand Jésus est venu comme roi, il s'est approché, et le royaume de Dieu s'est approché et a été organisé. Ce royaume a été organisé par Jésus lui-même. Il a envoyé ses disciples dire et faire les choses que lui-même il faisait et il disait. C'est-à-dire que les disciples ressuscitaient les morts, guérissaient les malades, etc., etc. De nos jours, Jésus continue son œuvre en bâtissant son Église sur la révélation que l'apôtre Pierre a eue venant du Père. Rappelez-vous dans Matthieu 16, 18, Jésus demande, qui dit-on que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Pierre, parce que c'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est Dieu le Père qui te l'a révélé. Et alors, c'est sur cette révélation que Jésus bâtit son Église. C'est-à-dire, il faut avoir la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. À partir de là, on commence à devenir, à s'intégrer dans l'Église de Jésus-Christ. Seul Jésus construit son Église, en aucun cas c'est un homme ou une femme qui construit l'Église de Jésus-Christ. Nous avons juste la responsabilité de prêcher sa parole, de guérir les malades en son nom, faire toutes ces choses et de vivre en conformité avec son plan de construction qu'on trouve dans la Bible, dans Actes chapitre 2 et Actes chapitre 4. Je ne vais pas vous les lire, lisez-les, c'est un peu long, mais vous allez voir que le plan de Dieu au départ, c'était que son Église qu'il bâtissait soit une communauté, pas un club où les gens se réunissent le dimanche pour louer le Seigneur et puis ensuite chacun rentre chez soi. Non, c'est une communauté. Chacun donnait tout ce qu'il avait, les apôtres distribuaient selon les besoins de chacun, ils prenaient leur repas toujours ensemble, ils avaient un seul cœur, une seule âme, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, etc. Vous connaissez, mais relisez et voyez. Pensez, est-ce que mon Église, elle est comme ça? Voilà. C'est ça. Jésus seul possède son Église. En fait, c'est les prémices de son royaume futur. L'Église telle qu'elle est aujourd'hui. L'Église biblique telle qu'elle est aujourd'hui. Pas l'Église club, avec un pasteur qui dirige comme un gourou, comme un... Enfin, je ne veux pas exagérer, ils ne sont pas tous comme ça, mais il y en a quand même pas mal qui sont un petit peu des tyrans. Hein. Alors, c'est Jésus lui seul qui dirige son Église. Nous avons juste la responsabilité de communiquer sa parole et de faire ce qu'il faisait. Jésus possède son Église. En fait, c'est l'Église, celle qu'il a voulu au début, eh bien, c'est celle qui sera, c'est les prémices de celle qui sera dans le monde futur. Jésus nous a dit d'observer tout ce qu'il a prescrit. On trouve ça dans Matthieu 28, 20, et tout ce qui, dans tout ce qu'il a prescrit, il y a renoncer à vos biens, suivez-moi. Quiconque ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Celui qui aime plus son père, sa mère que moi n'est pas digne de moi. Donc vous n'avez pas d'excuse, vous devez suivre le Seigneur Jésus-Christ à fond. Et puis, tel que c'était écrit, et puis vivre avec vos frères et sœurs. Ah, mais c'est aujourd'hui, c'est plus... Je m'en fiche de ce que vous pouvez dire, penser et donner comme excuse. Moi, je vous prêche la parole de Dieu, la Bible... Ça, c'est ce que je dois faire, et c'est pas seulement ce que je dois faire. Je fais pas que de le prêcher, je le vis. Je le vis depuis 1974, avec mes frères et sœurs qui sont ici. Alors, je vous enseigne ces choses afin que vous les sachiez, que vous ne disiez pas en arrivant devant Dieu, « Ah, vous ne savez pas ?» Si, vous le savez. Vous le savez. Celui qui a un ministère de la parole doit annoncer tout le conseil de Dieu. On trouve ça dans Timothée, dans 2 Timothée 4, 23. Voilà ce qui est écrit. Timothée 4, 23, c'est pas ça. Ça doit être 1 Timothée 4, 23, je pense. Ben non, c'est pas ça. Pardon ? Quelqu'un me dit quelque chose ? De Timothée 4, 23, je sais pas, j'étais cherché ça, mais c'est écrit qu'il faut que celui qui... Oh là là, je deviens vieux. Enfin, il y a aussi un autre texte, c'est dans Acte 20, je vous lis acte 20, là je suis certain que c'est, je ne me suis pas trompé, acte 20, voilà, où il est dit au verset 27, je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher, faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Parce que je sais qu'après mon départ, c'est Paul qui parle, des loups cruels s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. De votre propre rang surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner des disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Je vous confie à Dieu et au message de sa grâce. Enfin, vous lirez le texte. L'apôtre Paul prévoyait qu'il y aurait des loups qui allaient sortir du milieu des chrétiens. Ben, il ne s'est pas trompé. Donc son église, l'église de Jésus-Christ, il l'a acquise par son propre sang. On vient de le lire, acte 20-28. Et la pierre principale, c'est Jésus. Et nous sommes des pierres vivantes que Jésus a ajoutées à la construction. C'est Jésus qui ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. On lit dans 1 Pierre 2, 5... Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et rocher. C'est un rocher propre à les faire trébucher. Vous voyez, il y a des gens, Jésus, ça, ils trébuchent dessus. Ils ne le connaissent pas, ils ne lisent pas les Écritures, ils ont une religion. Comme les Juifs qui ont crucifié Jésus, ils avaient une religion, mais ils trébuchaient, voilà. Et ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, mais en fait c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Je vous encourage donc, etc., à continuer à être fidèles. Je pense que vous avez compris ce que l'apôtre dit là. L'Église de Jésus-Christ, il nous est dit qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité, dans 1 Timothée 3,15. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Il y a des gens qui disent « Moi, je ne vais plus à l'Église parce que la sœur Trouchue ne me dit pas bonjour » ou « Je ne vais plus à l'Église parce que ça me casse les pieds de me lever le dimanche matin » ou toutes sortes d'excuses. Vous êtes en train de mépriser ce que Jésus... Dans Éphésiens 4, 11, 12, on lit que Jésus a donné à certains d'être des ministres pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et c'est dans Éphésiens 4, 11, 12. C'est-à-dire que dans son Église, il y a des ministères. Il y a 5 ministères. Et malheureusement, dans les Églises, maintenant, il n'y en a plus que 2. Hein, on voit des évangélistes et des pasteurs, puis c'est tout. À partir du moment où quelqu'un veut être un apôtre ou un prophète ou... Et les prophètes, je me méfie un peu. Sur tous ceux que j'ai connus, qui se disent prophètes, allez, il y en a 2 ou 3 qui sont des véritables prophètes. Tout le reste, c'est poubelle. C'est du n'importe quoi. Alors, faites attention, mais c'est pour ça qu'il n'y en a presque plus dans les églises, parce qu'ils ont fait tellement de dégâts, ils ont dit tellement de bêtises, ils ont été tellement charnels. Je pense que vous l'avez compris, quand la vraie Église, selon le modèle biblique, se manifeste, c'est le royaume de Dieu qui s'approche des gens. En réalité, notre passion pour Jésus sera seulement vivante et grandissante si elle est couplée avec une passion réelle pour son Église. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas les frères que tu vois ? Voilà le message du royaume de Dieu sur cette terre. Et le royaume de Dieu sur cette terre, c'est juste l'image de ce que sera le royaume de Dieu pour l'éternité. Ce royaume, son Église, n'est pour le moment que les prémices, la première manifestation du royaume de Dieu qui vient. Ça, Dieu a toujours fait ça, il a toujours donné des prémices à tout ce qu'il a fait. Hein. Et là, pour le moment, ben, c'est son royaume, c'est l'Église. Alors, si vous ne voulez pas de son royaume sur la terre, ben, dans la Nouvelle Jérusalem, vous serez sauvés, oui. Mais comme au travers du feu, c'est-à-dire que il y en a qui seront l'épouse dans la Nouvelle Jérusalem, il y en a qui seront rois des nations, et il y en a qui seront gouverneurs de 10 villes ou de 5 villes ou quelque chose comme ça. Puis il y aura toute la populace qui viendra, qui sera, voilà, il y aura des ouvriers, toutes sortes de gens. Vous ne serez pas perdus, mais vous n'aurez pas une place exceptionnelle, comme disait l'autre. Vous serez, voilà. Vous brillerez comme les étoiles, c'est déjà pas mal. Mais bon, on peut quand même espérer mieux, non ? Et puis, il suffit d'y croire, et puis de se mettre au travail. Alors, je prie que vous soyez fidèles et que vous preniez conscience de ces choses. Jésus allait de lieu en lieu, prêchant l'évangile la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et puis ensuite, quand il est mort, il est ressuscité, il a apparu à ses apôtres, et puis l'Église est née, et puis telle qu'elle était, c'est comme elle doit être aujourd'hui. Il n'y a pas à discuter. Telle qu'elle était au commencement, c'est comme ça qu'elle doit être aujourd'hui. Si elle n'est pas comme ça aujourd'hui, c'est pas l'Église. Ça n'est pas l'Église. C'est un club, c'est quelque chose que Dieu tolère. Dieu déteste pas vos assemblées, mais voilà, c'est pas exactement ça. Il faut se mettre à obéir. Alors vous me direz, mais comment ? Commencer déjà. Nous, quand on a commencé, on était 3, hein. Puis après 4, 5. On avait une petite maison, toute petite, avec 3 pièces. On en a fait une 4e dans la cave. Et puis, après, on a eu du monde nouveau qui est arrivé, donc on a décidé d'acheter plus grand. On avait une maison de 11 pièces, mais très vite, ça s'est rempli. Il a fallu qu'on démolisse les garages pour agrandir. Puis après, au bout de quelques temps, c'était encore trop petit, donc on a acheté un château, et etc., etc. Puis maintenant, on est là où on est, on y est très bien. Je prie que le Seigneur touche vos cœurs et que vous preniez conscience de l'importance de ce message de l'évangile du royaume. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un vient à vous prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème. Alors, l'évangile du royaume, dans l'évangile du royaume, il y a l'évangile que vous prêchez, c'est-à-dire Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel. C'est dedans. Parce que si Jésus-Christ n'est pas mort, s'il n'est pas ressuscité, s'il n'est pas monté au ciel, il n'y aura jamais de royaume. Mais le but de tout ça, c'est qu'il veut établir son royaume. Et il veut l'établir où ? Pas ici, sur la nouvelle terre. Celle-là, elle va être détruite. La Bible dit, elle sera roulée comme un vieux manteau et jetée avec le ciel. Tout ça va disparaître. Je me rappelle d'un frère qui disait, enfin quand même, Dieu ne va pas détruire Paris, vous rendez compte ? Toutes ces belles rues, ces beaux monuments à la poubelle. Dieu va tout détruire parce que trop de péchés. Dieu va tout détruire et tout reconstruire et ça sera merveilleux. Il faut que vous soyez avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir.